L'enjeu, c'est pas de se dire, oh mon Dieu, il y a un pauvre petit enfant seul d'un côté, et oh mon Dieu, il y a des parents très tristes de l'autre, et mettons-les ensemble. L'enjeu, c'est de se dire, quelles sont les conditions qui président à la séparation d'une famille? Et ce n'est que dans des cas extrêmes, généralement, donc extrême pauvreté, guerre, famine, épidémie, catastrophe naturelle, que les gens se séparent de leurs enfants.
Vacarme. Vacarme.
La voix des adoptés.
Laurence Di Félix et Raphaël Bouchet.
L'histoire de l'adoption est émaillée de nombreux scandales, comme les 750 enfants du Sri Lanka adoptés illégalement dans les années 70 et 80 en Suisse, au vu et au su des autorités qui ont préféré se taire. L'adoption internationale est donc sous le feu des critiques, aussi parce que la parole des adoptés se libère. Amandine Gay est cinéaste, écrivaine, née sous X d'un père martiniquais et d'une mère marocaine. Elle a été adoptée en France par une famille blanche et elle ignore une grande partie de son histoire. Dans ses œuvres, elle décortique un système où colonialisme, racisme et condescendance font bon ménage. Nous la rencontrons à Strasbourg, lors d'une projection publique de son nouveau documentaire « Une histoire à soi ». Quant à Jouy Bourguin, qui témoigne dans le film d'Amandine Gay, elle est née en Corée et a été adoptée en France. Elle déconstruit, elle aussi, le mythe de l'adoption comme un acte altruiste et humanitaire. Selon elle, l'adoption internationale est bel et bien un marché et les souffrances qui en découlent sont nombreuses. Des propos très politiques qui n'empêchent pas la poésie.
Je suis une goutte, assimilée dans un torrent, dépassée par les événements et menée par les vents jusqu'en Occident. Égarée dans train et de vie, mon allure ne vaut qu'à demi. Page blanche, à peine jaunie, deux parties inégales se jouent de mon désir d'être moi.
L'intime est politique. Reportage Jonas Paul, réalisation Jean-Daniel Mottet.
Lis dans vos yeux pâles qui me fige oriental. Vous avez la vue bridée, pas moi.
Ah ouais, bien, 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 bien vu, hein. Ça fait plaisir. Vraiment. Ça fait plaisir.
Il y a un monsieur qui est venu vous serrer la main parce qu'il a apprécié le poème.
Oui, 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 merci.
Ici, dans ce parc à Strasbourg.
Je vous rejoins, vraiment, je vous rejoins. C'est quand même très intime et c'est...
Oui, mais l'intime est politique pour moi, donc c'est, voilà. C'est important aussi de porter une parole publique sur certains sujets qui ne sont pas justement assez visibilisés. Parce que là, c'est sur le cas de l'adoption, en fait.
Vous pouvez vous présenter ?
Oui, bah alors, je m'appelle Jouy Bourguin, donc je suis adoptée d'origine sud-coréenne. Je suis arrivée en France à l'âge de 1 an.
En lisant votre essai, Jouy Bourguin, oui. J'ai appris un mot, asiatiqueté.
Ça veut dire être étiqueté comme asiatique. En général, quand on parle d'asiatique, on pense aux personnes est ou sud-est asiatiques. Donc c'est ces personnes-là que je nomme, moi, asiatiqueté, c'est-à-dire construite dans l'imaginaire comme asiatique. Mais ça, on a tendance aussi, en utilisant ce terme-là, asiatique, sans le questionner, à invisibiliser d'autres populations asiatiques, notamment des personnes originaires d'Asie du Sud, comme l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, etc., ou même des personnes d'Asie de l'Ouest, comme l'Iran. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important aussi d'inventer des mots pour cibler des réalités plus précises, en fait. Quand on dit asiatique, c'est dans une perspective raciale qu'on utilise ce terme-là, c'est pas dans une perspective géographique.
Que vous disaient vos parents par rapport à vos origines sud-coréennes? Est-ce qu'ils essayaient de les gommer?
Oui, mes parents étaient complètement indifférents à la race. Ils me disaient que je n'étais pas asiatique. Mais à l'époque, ça me rassurait parce que j'avais besoin de me sentir appartenir à ce groupe familial. Et je l'appelle mon cocon blanc parce qu'en fait, je vivais dans la perception de moi-même en tant que blanche. Et donc, bon, il y avait très peu de personnages asiatiquetés, hein, à l'époque. Je fais référence à Lucy Liu, par exemple. Et du coup, je leur demandais, mais est-ce que je lui ressemble? Enfin, je me posais des questions sur...
C'est qui, Lucy Liu?
C'est une actrice sino-américaine. Et elle jouait dans Ally McBeal à l'époque, dans les années 90. Parce que moi, j'avais besoin de repères physiques. Ce qu'on appelle le miroir biologique, je ne l'ai pas dans ma famille. Personne ne me ressemblait. Et je pense que cette question, elle trahissait une envie de ma part de savoir à qui je ressemblais. Et en même temps que je la posais, j'avais pas envie de lui ressembler à Lucinio, parce que c'est ça qui est paradoxal, c'est que je ne la trouvais pas belle. Alors que bon, voilà, on sait très bien que c'est une belle femme, mais moi je la trouvais pas belle parce que pour moi elle avait trop de caractéristiques physiques de personnes asiatiquées, en fait, au niveau des yeux, du visage, etc. Des caractéristiques que je n'aimais pas sur moi. Donc en fait, quand je leur posais la question, j'attendais qu'ils me rassurent, et ils répondaient très bien, ils me rassuraient de me dire « mais non, nous on voit plus que t'es asiatique ». Donc ça me rassurait quelque part de me dire que je leur ressemblais, d'être dans ce mensonge, dans cette illusion de la blanchité en quelque sorte.
Vous êtes retournée en Corée du Sud à 29 ans ?
Oui, je suis retournée pour la première fois à 29 ans, en 2012. Et là, ça a été vraiment un choc émotionnel, mais plutôt positif, où j'ai eu l'impression que j'avais besoin de rattraper tout ce qui m'avait été arraché, tout ce dont j'avais été séparée sans mon consentement. Et là, le fait de réapprendre la langue, de vivre là-bas, d'apprendre aussi au niveau de la culture, c'est ce qui m'a permis de ne plus avoir aussi ce syndrome de l'imposteur, de combattre aussi ce sentiment d'illégitimité, à dire que je suis asiatique, en fait.
Vous avez retrouvé vos parents d'origine ?
Non, ça a été assez compliqué. J'ai eu affaire à beaucoup d'obstacles en Corée du Sud, notamment de la part des institutions, des orphelinats. Mon adoption est passée par une agence américaine qui s'appelle Holt, une entreprise pour moi de l'adoption. Ils ont à la fois des orphelinats, ils ont des centres d'accueil pour les mères célibataires à qui, bon voilà, ils leur font comprendre que pour être accueillies, hébergées, elles doivent laisser leur enfant à l'adoption. Donc voilà, il y a tout. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une entreprise qui fait son business sur l'adoption. Donc en fait, en Corée du Sud, les mères célibataires non mariées sont extrêmement discriminées. Et c'est l'une des raisons principales des adoptions, en fait. Et donc je fais partie de ces cas-là, en fait, d'adoption. Et c'est Holt, donc ce couple d'évangélistes américains, qui ont été les premiers à mettre en place un orphelinat, etc. Et qui ont eu, en 1955... Il y a une loi spéciale qui a été votée pour eux au Congrès pour leur permettre d'adopter 8 enfants, tous métis. Donc des enfants métis issus de relations entre soldats GI et femmes sud-coréennes durant la guerre de Corée.
Vous avez l'impression que la Corée du Sud, c'est un laboratoire mondial pour le système d'adoption internationale ?
Déjà, en termes de quantité, c'est le pays qui a le plus donné d'enfants à l'adoption. On est en total plus de 200 000. C'est quand même énorme et on ne peut pas juste dire, par exemple, que ce sont 200 000 cas d'abandon. Non, il y a quelque chose de structurel, de systémique qui transparaît à travers ce chiffre-là. Ce qui fait système dans l'adoption internationale, c'est par exemple le flux d'enfants qui se fait dans un sens. On imagine très mal des enfants français adoptés, en Corée du Sud, par exemple. Justement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait énormément en France d'orphelins de guerre, et la France a refusé d'envoyer ses enfants à l'adoption internationale. Une forme d'arrogance aussi, je dirais moi, occidentale, de se dire « Ah non, nos enfants, on ne les laisse pas partir, on les garde. » Quitte à les garder dans de très mauvaises conditions, par contre, ils vont prendre des enfants venus d'autres pays qu'ils considèrent comme moins développés, avec cet esprit, ce complexe du sauveur aussi. On va sauver un enfant, on va le sauver de la misère, on va lui donner une vie meilleure. Cette idée qu'en Occident, on vit forcément mieux que dans d'autres pays, en fait. Alors que bon, là aussi, les adoptés, on pourrait, avec nos expériences, démontrer le contraire, notamment avec le racisme. Certes, au niveau matériel, économique, on a sûrement eu des conditions de vie meilleures, mais est-ce que c'est le matériel qui fait le bonheur ? Enfin, c'est pas ça qui rend une vie satisfaisante ou enrichissante, en fait.
Il y a d'ailleurs une citation du couple Holt.
Ah ouais.
À l'attention des futurs adoptants. « Nous demandons à tous les chrétiens de prier pour que Dieu nous donne la sagesse, la force et le pouvoir de délivrer ces petits-enfants du froid, de la misère et de l'obscurité de la Corée, dans la chaleur et l'amour de vos maisons. »
Des maisons américaines, oui. Bon, les parents, on peut plus rien faire pour eux, c'est un peu ça l'idée. Mais on va prendre leurs enfants, les civiliser, les déculturer, c'est-à-dire retirer leur culture d'origine pour les assimiler. Et c'est un système qui reproduit des mécanismes coloniaux dans ce processus qui consiste à assimiler un enfant, à le séparer définitivement. Parce que là aussi, on pourrait questionner ça. Hein, pourquoi l'adoption internationale, c'est forcément une séparation définitive ? Parce qu'il faut satisfaire un besoin d'enfants de familles occidentales qui conçoivent le lien familial comme un lien exclusif.
C'est le principe de l'adoption plénière.
Oui, l'adoption plénière, c'est une fiction juridique. C'est une fiction juridique puisqu'elle va complètement effacer les origines, la famille aussi biologique, qui meurt socialement, qui meurt juridiquement, et donc qui va inscrire dans l'état civil les adopter comme étant, de façon fictionnelle, du coup, les enfants biologiques des parents adoptants.
C'est le système d'adoption plénière qui préside en Suisse.
Pour l'adoption internationale ? Oui, c'est pareil en France, ouais.
C'est bon ? Ça, c'est les places.
Maman ?
Oui ?
On va voir une histoire de soi.
Une histoire à soi.
À soi. Qu'est-ce que c'est ? Le film ? Ah ben, c'est un film qui traite de l'adoption et des témoignages d'enfants adoptés, donc des majeurs adoptés. Et nous avons adopté 3 enfants, donc voilà, on est...
Ils sont là autour de vous ?
2, en fait. 2 des 3.
Vous êtes venu pour le film Une histoire à soi ?
Oui.
Vous aussi ?
Oui.
Comme ma fille est adoptée, je lui ai dit, viens, on va aller la voir. Plus moi qui l'ai poussée, parce qu'elle n'avait pas trop envie, puis je dis bon...
C'est un peu gênant, genre j'aime pas trop les histoires comme ça.
Les histoires comment ?
Bah genre les trucs d'adoption, tout ça, genre moi j'en parle pas trop, du coup voir ça, bah ça peut me faire penser à mon histoire, des trucs comme ça, du coup c'est pour ça. Parce qu'il y a, comme elle est quand même de couleur, il y a certains trucs, on peut se reconnaître, des fois il y a des gens qui sont racistes, on doit se battre plus pour avoir sa place qu'une personne qui est blanche, ou des trucs comme ça, c'est aussi pour ça.
Vous êtes venu voir quel film ?
Une vie à soi.
Une histoire à soi.
Une histoire à soi, pardon.
Okay. Oui. Pour quelle raison ?
Parce que j'ai adopté 2 filles. Est-ce que finalement, tout le monde dit « Ouais, mais c'est merveilleux, vous leur donnez une vie qu'elles n'auraient pas eue. » Mais oui, mais qui me dit que c'est cette vie-là qu'elles avaient envie de vivre ? C'est un peu un choix égoïste, d'une certaine façon, quand même.
Adopter, c'est un choix que vous referiez aujourd'hui ?
Oui. Oui, tout à fait. Je n'ai jamais, je pense, pas un seul jour, pas une seule heure regretté. Pour moi, en tout cas, mes filles, c'est, je ne sais pas.
Et vous ?
Oui, bonjour.
Vous êtes venu voir quel film ?
Le film par rapport à l'adoption. Je suis sur la démarche de faire une adoption. Je suis sur la liste d'attente d'un enfant qui vient de l'Afrique noire en fait.
Mais vous seriez prête à adopter un enfant asiatique aussi, par exemple ?
Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci.
Je suis Clément, je travaille au cinéma, c'est moi qui vais animer la soirée ce soir. Enfin, c'est, voilà.
Et ben, moi c'est Amandine et je venais voir s'il y avait de l'eau. Je viens
oui,
de.
On est ici à Strasbourg devant le Cinémaster. On est juste sous l'affiche de votre film. Votre engagement, Amandine Gay, c'est aussi un plaidoyer pour la justice reproductive. Qu'est-ce que c'est ?
Alors la justice reproductive, c'est une perspective qui demande de considérer les questions de contraception, de stérilisation, d'avortement, mais aussi d'adoption et de placement d'enfants comme résultant d'inégalités systémiques. Et donc par inégalités systémiques, on veut parler du racisme, du classisme, du sexisme, des inégalités nord-sud. Et ce que j'aime dans cette perspective, c'est que justement elle permet tout de suite de politiser l'adoption. L'enjeu, c'est pas de se dire « Oh mon Dieu, il y a un pauvre petit enfant seul d'un côté, et oh mon Dieu, il y a des parents très tristes de l'autre, et mettons-les ensemble. » L'enjeu, c'est de se dire quelles sont les conditions qui président à la séparation d'une famille ? Et ce n'est que dans des cas extrêmes, généralement, donc extrême pauvreté, guerre, famine, épidémie, catastrophe naturelle, que les gens se séparent de leurs enfants. Et en fait, ce sont des trajets qui ne vont que dans un sens. Ce sont les enfants des familles pauvres ou précaires qui vont dans les familles de classe moyenne et les familles bourgeoises. Ce sont aussi un autre type de trajet, les enfants des pays de l'Est ou des pays du Sud qui vont dans les familles du Nord global. Ce sont souvent, pas que, parce que justement, il peut y avoir des enfants russes, etc., mais ce sont souvent des enfants racisés qui vont dans des familles blanches. Bah, tout ça, ça a un sens. Tout ça, ça résulte d'inégalités historiques aussi. Et ça, on voit très bien avec la Corée du Sud, qui n'est plus du tout un pays pauvre, et où là, le départ des enfants, il s'explique par la société patriarcale coréenne, où en fait, il est extrêmement mal vu d'être une mère célibataire, et où du coup, elles sont poussées à se séparer de leurs enfants pour l'adoption internationale, et là, c'est pas parce que le pays est pauvre. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de révéler que les difficultés qui peuvent éclore dans les familles sont d'abord liées aux questions politiques, et pas tant aux enjeux psychiques, psychologiques, et donc comme justement une bonne partie de nos souffrances sont ancrées dans des phénomènes sociaux et politiques, si on arrivait à changer cette dimension-là, il y aurait beaucoup moins de souffrance du côté des personnes adoptées. Et ultimement, c'est ça qui m'intéresse, en fait.
Et beaucoup moins de suicides, parce que les personnes adoptées ont, quoi, 4 fois plus de chances, c'est pas le mot, mais de mettre fin à leur jour.
Les études qui existent sont des études états-uniennes et suédoises. Et donc, de ces chiffres-là, est sortie effectivement cette proportion que d'une personne adoptée, en particulier adolescente, ont 4 à 7 fois plus de chances de commettre des suicides que leurs frères et sœurs ou équivalents non adoptés.
La patronne de ma mère devait m'adopter, justement parce qu'elle souhaitait que je quitte pas le Brésil et encore moins ma famille biologique. Et c'est très courant au Brésil. Mais elle n'a pas pu le faire puisque son mari est tombé malade. Ça m'a profondément marqué.
Alors, bonsoir. Je vais faire un petit mot du producteur avant qu'on commence les échanges. Parce qu'on s'est rendu compte, on est conscient du fait que le film traite de sujets qui sont très intimes, qui mobilisent beaucoup l'affect, et que donc ça peut effectivement affecter beaucoup les personnes dans le public. Et c'est pour ça que nous, on tient beaucoup à que tous les échanges soient vraiment sur une base de bienveillance, de respect, pour que tout le monde se sente à l'aise de prendre la parole, soit pour poser une question, soit pour parler de son expérience ou de son ressenti. Puis, je voulais aussi faire un petit mot du mari d'Amandine, hein, donc je vous invite à être très gentil avec elle. Parce que même si elle a l'air très solide, c'est une petite chose fragile et qui travaille beaucoup. On est en tournée avec le film, avec le livre qui sort le 23 septembre. Et donc voilà, on tient à la préserver de manière à ce qu'on arrive au fond de toute cette aventure en bonne santé et dans le bonheur. Voilà, merci beaucoup. Non, juste, je vous invite à lever la main quand vous avez une question, donc n'hésitez pas.
Merci beaucoup. Alors je vais faire court. Merci beaucoup pour ce film. Parce que là, vous avez encore libéré la parole de l'adopter. Et je voulais savoir, par rapport déjà aux projections que vous avez faites, comment c'est reçu par les personnes qui ont déjà adopté. Et je pense que des personnes qui peuvent être dans des recherches pour avoir un parcours d'adoptant, peut-être ça peut être violent, je ne sais pas.
Effectivement, la dernière projection avant les vacances, le 12 juillet, je me suis fait un peu agresser verbalement, même très très fort. Et ça a vraiment rendu la... rendu la rencontre très compliquée, parce qu'en plus, du coup, après, les gens n'osaient plus parler dans la salle parce qu'il y avait une personne qui perturbait, qui était voilà, dans son mal-être, etc. Donc, c'était très compliqué et très violent, mais c'est sûr que c'est ce à quoi on s'expose. Et après, je dirais que du côté des candidats à l'adoption, c'est peut-être pas aujourd'hui les personnes les plus sur la défensive, parce que la formation des candidats à l'adoption a changé. Donc, il y a eu 2-3 projections où c'était un peu tendu, et où effectivement, parfois aussi, une façon de ne pas vouloir adresser les questions, c'est de dire « oui, l'adoption, ça a beaucoup changé ». Ce à quoi, effectivement, nous répondons « tout à fait, ça a beaucoup changé, mais il n'empêche qu'il y a toute une génération qui est là, et qui était là quand il y avait des adoptions illicites, quand il y avait zéro préparation sur les questions raciales. Cette génération en a souffert, continue à en souffrir aujourd'hui, et donc on est ravis que ça ait changé. Mais déjà, ça a changé aussi parce que cette génération a milité. Hein, les choses, elles changent pas par elles-mêmes. Ce film s'inscrit dans une longue lignée de prises de parole des personnes adoptées qui veulent faire changer la pratique. Même si, voilà, moi, je suis un peu fatiguée et tout, surtout, je suis pas isolée. Je veux dire, si quelqu'un me dit « oui, c'est n'importe quoi », je peux le renvoyer vers 12 comptes Instagram de personnes adoptées qui disent exactement la même chose que moi. Ce film serait sorti il y a 5 ans déjà, ça aurait été des projections débat très musclées.
Merci. Merci beaucoup. Pour avoir...
Bonsoir, alors nous on est une famille adoptive, donc là j'ai 3 adoptés,
oui, moi,
et en fait elles aimeraient vous parler...
Non mais on va aller dehors comme ça, comme ça on a libéré la salle.
En fait nous dans notre famille on regroupe à peu près tous les
continents aussi, on aurait pu faire le film avec
déjà,
juste vous.
Déjà. Et puis tout le type de parcours,
ouais, donc, on a connu la violence,
on a connu un peu tout. On s'est vraiment reconnu dans tout ça quoi.
C'est super d'en parler parce que moi, comme dit, j'ai 3 frères et sœurs adoptés. Et à chaque fois que je commence à parler de ma famille et que je dis « ouais, c'est ma sœur », il y a toujours un flottement dans les yeux des gens. Ou ils se disent « bah ouais, mais du coup, c'est une famille d'accueil. »
Moi, je me rappelle une fois, donc mon père était décédé justement et on est parti faire un tour du Québec avec ma mère et tout. Et on arrivait dans les hôtels et du coup, on dormait dans la même chambre, dans un lit double. Et manifestement, les gens se demandaient si on était en couple. Mais même à l'adolescence, moi, je me rappelle avoir été avec mon père dans la rue et me dire « oh là là, je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent qu'on est ensemble, en fait. » Et de genre dire « papa » 14 fois en public, juste pour être sûr que personne ne se dise qu'on est en couple. C'est pas assez apprécié dans l'espace public. Et du coup, c'est vrai que nous, on doit comment surjouer en public pour être sûr que les gens comprennent bien qu'il s'agit d'une famille et pas d'une relation.
Bah ouais, mais surtout que comme nous, on vient de... Enfin, ma soeur, elle vient du Vietnam, j'en ai une qui vient du Congo et l'autre qui vient du Sri Lanka. Du coup, nous, on n'est pas forcément pas du tout, on n'a pas de lien et tout.
Quand tu dis « je sais ma soeur », ils diront « mais attends, je comprends pas, tu ne ressembles vraiment pas à Moko. »
Bon, on m'a déjà dit que les quatre pères différents, du coup, c'est ça.
Eh bah, dis donc, ta mère, hein, des gens qui sont
dans
des trucs.
Dans une queue de restaurant, de restoroute, les gens qui disaient « celle-là, dis donc. »
On a déjà regardé bizarre quand on se baladait.
Les gens sont
dingues, hein.
Ouais.
Bah, merci.
Bonsoir. Je m'appelle Nadia. Ma question est plus générale. À partir de quel âge tu as ressenti que tu avais besoin d'être entourée de pères?
Bah, écoute, moi je pense que ça a commencé très tôt parce qu'une histoire que mes parents racontent tout le temps, c'est que moi, petite, mais vraiment, je sais pas, avant d'aller à l'école primaire, je suivais les noirs au supermarché.
Ah, ok.
Voilà. Genre, ils me perdaient au supermarché puis ils me retrouvaient à côté de personnes noires comme ça, en train de squatter avec eux. Et donc, moi, c'est vrai qu'à partir de 12 ans, j'ai vécu vraiment une vie très ancrée dans mes communautés d'origine parce que j'allais au basket 7 jours sur 7, j'allais en camp de basket et j'ai eu de la chance d'avoir des gens, des personnes noires autour de moi tout au long de ma vie. Et ça, c'est sûr que ça a été très important dans ma construction identitaire, quoi.
Merci beaucoup pour ce que tu fais, quoi.
Vous dites, Amandine Gay, qu'une personne adoptée, elle a trois familles.
Oui, parce que pour chaque personne adoptée, donc il y a la famille dans laquelle on est né, ensuite il y a la famille dans laquelle on a grandi, et puis moi je considère que la communauté des personnes adoptées, c'est aussi une autre famille, parce que c'est un lieu de ressources émotionnelles et très concrètes sur comment je fais. Je pense par exemple aux adoptés du Sri Lanka, la raison pour laquelle, et elle l'explique dans le film, Céline a su qu'elle faisait vraisemblablement partie du trafic, c'est parce que les adoptés d'origine sri-lankaise qui se sont mobilisés en Suisse ont mis en place un document PDF que tout le monde, auquel tout le monde peut accéder sur Internet pour examiner son dossier soi-même et voir s'il y a des facteurs qui permettent de supposer très fortement qu'on est issu du trafic. Par exemple, est-ce que notre dossier a été instruit par les avocats qui ont été par la suite condamnés pour trafic d'enfants, de quelles années on parle, etc., etc. Et ça, voilà, encore une fois, quand nous, on a grandi, il n'y avait pas ça.
Perdu parmi les miens, mon quartier est bien trop loin. Me réapproprier mes mots, trouver le repos.
Comment on prononce votre prénom ?
Juhi. Ouais.
Juhi Bourga.
Ouais, c'est ça. J'ai fait un changement de prénom aussi, hein, donc c'est pas... J'ai gardé aussi encore mon prénom français qui est Justine, en fait. Donc voilà, c'est assez récent ce changement en 2016.
Est-ce que vous avez l'impression que le recours à l'adoption freine la mise en place de systèmes de protection sociale dans les pays sources, par exemple,
oui,
la Corée du Sud?
Oui, complètement. Hein. Ça permet justement à l'État sud-coréen de se déresponsabiliser de politique de protection de l'enfance, en fait. Parce que, enfin, pour moi, l'adoption internationale, c'est pas une mesure de protection de l'enfance. Enfin, pendant longtemps, le gouvernement sud-coréen a donné plus d'argent aux instituts d'adoption comme Holt, donc plus d'argent par enfant, en fait, qu'aux parents célibataires, qui galèrent, qui sont discriminés, qui font tout pour garder leur enfant dans des conditions pas faciles, et on ne leur donne pas assez d'argent, en fait.
Vous citez aussi l'association des familles de mères non mariées en Corée du Sud qui ont constaté certaines pratiques étranges dans les hôpitaux.
La présidente de cette association dit que dans les hôpitaux, les personnels soignants mettent une certaine pression sur des mères célibataires, en fait. Et certains vont même jusqu'à leur montrer des photos de familles américaines blanches en disant pensez à votre enfant, pensez à son avenir, offrez-lui une vie meilleure en Occident, quoi. C'est un peu ça. Donc c'est ce qu'on appelle des rabatteurs, en fait. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans d'autres pays sources, c'est-à-dire des pays qui envoient l'adoption, parce que c'est un marché, l'adoption. Il y a plus de parents en attente d'adoption que d'enfants adoptables, en fait. Donc il faut répondre à cette demande et donc il faut créer l'offre. Donc les rabatteurs servent à ça, à trouver des enfants.
Quand on vous définit, on vous dit vous êtes une enfant adoptée, encore aujourd'hui, alors que vous avez quel âge ?
Là, j'ai eu 39 ans, je suis plus qu'une adulte, et c'est vrai que c'est un tic de langage encore fréquent, c'est un réflexe que de dire adoptée égale enfant. Et c'est pour ça aussi que quand on porte une parole dissonante, quand on a un regard critique, parce que moi-même j'en ai fait les frais, lors de rencontres publiques, c'est souvent des parents adoptants qui viennent me voir pour me dire « mais vous avez forcément vécu une mauvaise adoption. Donc c'est-à-dire qu'il me renvoie dans l'émotionnel, dans le pathologique aussi quelque part. Si je critique, c'est pas parce que je suis dans le ressentiment, c'est parce qu'il y a des injustices, c'est parce qu'il y a des inégalités dans le système. En fait, c'est compliqué de prendre la parole quand on nous dit « mais tu as été sauvé, mais tu as eu une vie meilleure ». Bon, en gros, c'est de quoi tu te plains ?
Vacarme.
De quoi tu te plains, c'est une façon de dire « mais tais-toi en fait ».
C'était un reportage de Jonas Paul, il était réalisé par Jean-Daniel Motet. 058 236 236 0 pour nous dire si vous aussi vous estimez que nous n'avons pas assez entendu la parole des personnes adoptées, que l'adoption doit se comprendre comme un système héritier de l'histoire coloniale. Pensez-vous au contraire que l'adoption est bel et bien un acte pur d'amour altruiste? 058 236 236 0.
Vacarme. Raphaël Bouchet, Laurence Di Félix, Stéphanie Coudray et Diane Dufaux.
Demain, nous donnerons la parole à des parents qui se préparent à adopter un enfant à l'étranger.
Ça va changer son régime ici.
Ah, ça va changer, surtout que mon mari est fromager et qu'il s'inquiète un peu de savoir s'il tolérera le lactose parce que c'est quelque chose qu'en Thaïlande, ils ne connaissent pas trop. Donc, ce serait le comble pour un fils de fromager qu'il soit intolérant au lactose. On ne va pas lui faire une fondue le premier soir où il arrive. Et puis, on verra.
Arriver et subir. Un reportage à découvrir dès 13h dans Vacarme.